Bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée aux sciences sur Radio Campus Rennes 88.4. Et cette semaine, on va s'intéresser à une toute nouvelle thématique puisqu'il s'agit des sciences économiques. Pour en parler, on reçoit cette semaine M. Guillaume Chauvet. Il est enseignant-chercheur à l'École nationale des statistiques et de l'analyse de l'information. Sa spécialité, les recherches statistiques d'enquête. Guillaume Chauvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc enseignant-chercheur à l'ENSAI. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette école ?
Oui. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, l'ENSAI, c'est une école d'ingénieurs qui est située sur le campus de Kerlan à Bru. C'est une école qui forme des cadres de la statistique publique, c'est-à-dire des gens qui vont aller travailler ensuite à l'INSEE, et qui forme également des ingénieurs en statistique, des gens qui vont travailler davantage dans le secteur privé. Donc, c'est assez large la gamme de compétences de nos étudiants. Certains vont travailler dans le domaine de la biostatistique, c'est-à-dire les essais pharmaceutiques, les études épidémiologiques. D'autres vont travailler dans le domaine de la finance, d'autres dans le domaine de l'informatique. Donc, ils peuvent toucher vraiment à une gamme assez large de disciplines.
Donc, c'est une école publique ?
C'est une école publique, tout à fait.
D'accord. Alors, vous faites de la recherche appliquée essentiellement, pas forcément de la recherche fondamentale ?
Plutôt de la recherche appliquée. C'est vrai qu'on classe davantage au sens large la statistique et donc la statistique d'enquête dans la recherche appliquée. C'est vrai que nos problématiques nous viennent généralement de cas concrets, c'est-à-dire de problèmes rencontrés dans les enquêtes ou de problèmes qui se posent dans les enquêtes et pour lesquels on essaye d'apporter des solutions. Par exemple, il peut se passer que l'INSEE nous interroge sur la manière de traiter ce qu'on appelle la non-réponse dans les enquêtes, c'est-à-dire le fait que certaines personnes ne répondent pas, ou encore que l'on soit interrogé sur la façon de sélectionner les échantillons pour mener une enquête. Et donc, si ce sont des méthodes nouvelles qu'il faut développer ou qu'il faut utiliser, ça peut donner lieu à des problèmes de recherche.
D'accord, donc je précise juste, l'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques et d'Études Économiques.
Tout à fait.
D'accord, donc pas du tout de recherche fondamentale du coup ?
Recherche fondamentale, si, dans la mesure où il arrive qu'on travaille sur des problèmes de recherche qui ne sont pas directement liés à des problèmes pratiques. Donc, et je dirais essentiellement appliqué, parce que l'essentiel de nos problèmes nous viennent quand même de cas qui se posent de façon pratique. Mais il arrive si qu'on travaille sur des problèmes, on va dire, fondamentaux, dans la mesure où ça ne donne pas directement lieu à des applications.
D'accord. Alors, de manière générale, quels sont les différents projets de recherche menés au sein de votre école ? J'imagine qu'il y a plusieurs équipes de recherche, peut-être ?
Oui, il y a plusieurs équipes de recherche. En fait, l'ENSAI accueille une partie du CREST. Alors, le CREST, c'est le Centre de Recherche en Économie et Statistique. C'est un centre de recherche qui contient plusieurs laboratoires. Et en particulier, il y a deux laboratoires de recherche. Le laboratoire de statistique d'enquête, auquel j'appartiens, et le laboratoire de statistique et de modélisation. Donc, à l'intérieur, il y a un nombre important de chercheurs qui travaillent sur différents projets. Et plus particulièrement au laboratoire de statistiques d'enquête, on travaille généralement en lien avec l'INSEE sur des collaborations, sur des partenariats pour les aider sur différentes enquêtes. On a également l'occasion à l'ENSAI d'accueillir un certain nombre de manifestations. Donc, par exemple, pour rester dans le domaine des enquêtes, on accueillera le colloque francophone sur les sondages en novembre 2012, donc du 5 au 7 novembre. Puis on a l'occasion aussi d'avoir des événements un petit peu plus courts. Donc on a les journées d'économie qui ont lieu 3 ou 4 fois par an. Puis on aura également un gros colloque qui va arriver d'ici 2 ans. Ce sont les journées de la Société française de statistique qui devraient avoir lieu à l'ENSAI.
D'accord, un grand programme alors.
Oui.
Donc, alors, vous vous intéressez aux statistiques d'enquête, vous ?
Oui.
Et pour cela, donc, vous travaillez avec l'INSEE. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, à l'origine, j'ai été formé par l'INSEE, puisque j'ai été formé à l'ENSAI en tant qu'élève attaché, c'est-à-dire en tant que personne qui allait travailler ensuite à l'INSEE. Donc, j'ai eu ensuite l'occasion de faire 2 postes à l'intérieur de l'INSEE, ce qui m'a donné l'occasion de me frotter avec des problèmes pratiques, avec des enquêtes de l'INSEE. Et donc là, depuis 3 ans maintenant, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAI. Donc, les problématiques avec l'INSEE, elles sont assez larges. Il y a des liens étroits entre l'ENSAI et l'INSEE. D'abord parce que l'ENSAI forme une partie des cadres de l'INSEE, ce qu'on appelle les attachés. L'ENSAI fait partie de ce qu'on appelle le GENES, le groupe des écoles de statistique, qui à une époque était à l'intérieur de l'INSEE et qui maintenant est passé établissement public. Donc il y a des collaborations assez larges avec l'INSEE qui ne sont pas toujours formalisées, c'est-à-dire qu'on a des contacts qui peuvent être informels avec des personnes que l'on connaît, qui viennent nous présenter des problèmes pratiques et qui ensuite peuvent donner lieu à des collaborations, voire à des contrats. Donc c'est vrai avec l'INSEE, c'est vrai aussi avec d'autres partenaires. Par exemple, on a eu des contrats de recherche ponctuellement avec la SNCF, on a eu des contrats de recherche avec France Télécom. Donc la statistique d'enquête, c'est quelque chose de relativement large.
Donc à chaque fois, c'est des partenariats alors que vous faites avec toutes ces grandes structures, ces instituts?
Alors ce sont des formes de partenariat, c'est-à-dire que ça peut donner lieu à un contrat de recherche où on apporte une expertise scientifique, une réponse à des questions que se posent soit les instituts de sondage comme l'INSEE, soit des entreprises publiques ou privées. Ça peut donner lieu aussi à des partenariats en termes de recherche, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement payé pour ce qu'on fait pour ces instituts ou pour ces entreprises, mais de notre côté, ça enrichit notre travail de recherche et ça donne lieu à des publications.
D'accord, alors l'INSEE, c'est une institut de sondage public.
Tout à
alors,
fait.
Justement, quelle différence vous faites entre les instituts de sondage privés et publics?
Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes objectifs. C'est-à-dire que les instituts de sondage privés s'intéressent à un nombre d'enquêtes qui est quand même assez conséquent. Donc, on en entend pas mal parler en ce moment, il y a les enquêtes d'opinion et notamment les enquêtes concernant la présidentielle. Il y a les enquêtes marketing pour savoir l'appréciation que les personnes peuvent avoir d'un produit. Il y a les enquêtes sur les enquêtes d'audience, par exemple, qui sont menées par Médiamétrie sur la façon dont les gens écoutent la télé, écoutent la radio ou vont sur Internet. L'INSEE, c'est assez différent. Les problématiques de l'INSEE, des instituts de statistiques publiques, ça porte, on va dire, sur des sujets comme les enquêtes auprès des ménages. Ça sert à donner des chiffres cadres pour des grands sujets comme quelle est la situation de l'emploi en France, quelle est la situation du logement, quelle est la situation pour les entreprises. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs en France? Donc l'INSEE, on va dire, donne des éléments quantitatifs sur des grands sujets, type l'emploi, le logement, les entreprises.
Donc c'est une grande échelle en général pour l'INSEE?
C'est une grande échelle. L'essentiel de la différence aussi avec les instituts de sondage privés, c'est vrai que les enquêtes réalisées par l'INSEE se font à grande échelle, avec des échantillons qui sont généralement de grande taille, pour avoir des chiffres qui sont fiables, aussi fiable que possible pour les enquêtes. Deux points importants pour moi. Le premier, c'est que dans les sondages, dans les enquêtes telles qu'elles sont réalisées par exemple par l'INSEE, on a une maîtrise assez fine de la façon dont les échantillons sont sélectionnés. On a en particulier ce qu'on appelle des bases de sondage, c'est-à-dire des listes des individus dans lesquelles on sélectionne. Donc c'est ce qui nous assure qu'on a un contrôle sur la façon dont les échantillons sont sélectionnés. Les instituts de sondage privés, eux, n'ont pas accès à ce genre de base, donc tirent des échantillons par exemple selon la méthode des quotas, où on essaye d'avoir un échantillon qui respecte les mêmes grandes structures que la population, en termes d'âge, en termes de sexe, mais on n'a pas la maîtrise précise de la façon dont l'échantillon est sélectionné. Donc l'autre grande différence entre les instituts de sondage public et privé, on en a un peu parlé, c'est la taille de l'échantillon. On a des échantillons qui sont de taille importante, voire très importante pour l'INSEE, et c'est ça qui nous assure que nos chiffres sont fiables.
Vous avez un ordre d'idée d'échantillon, par exemple ?
Les plus petites enquêtes auprès des ménages, ça porte rarement sur moins de 20 000 ménages.
D'accord.
Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Alors que les enquêtes d'opinion, par exemple pour la présidentielle, c'est rare d'avoir des échantillons qui sont supérieurs à 1000 individus. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Donc pour moi, deux grosses différences dans la façon dont les enquêtes et dont les estimations sont réalisées. Les instituts de sondage publics disposent de bases de sondage, donc d'une maîtrise de la sélection de leurs échantillons, et utilisent également des échantillons qui sont plus gros, donc a priori plus fiables.
D'accord. Alors on va parler un peu d'enquête et de sondage maintenant.
D'accord.
Donc qu'est-ce qu'on prend en compte pour savoir si justement un sondage ou une enquête est réaliste?
Alors je vais là plutôt parler des enquêtes qui sont réalisées par l'INSEE. Donc ce qui va faire la précision d'une enquête, généralement, c'est la taille de l'échantillon que l'on sélectionne. C'est-à-dire si l'enquête est bien réalisée, on sait que on aura des estimations qui seront relativement fiables au sens où elles sont non biaisées. Alors là, je vais peut-être expliquer un petit peu cette notion de biais qui est importante. La personne qui réalise une enquête, elle est un petit peu dans la situation de l'archer qui vise une cible. Son premier objectif à l'archer, c'est d'atteindre le centre de la cible. Et une fois qu'il sait qu'il atteint le centre de la cible, il va essayer d'être le plus précis possible, au sens s'en rapprocher au maximum, s'en éloigner aussi peu que possible. Donc le premier objectif dans une enquête, c'est ça, c'est ce qu'on va appeler l'absence de biais, c'est-à-dire être sûr qu'en moyenne, les résultats que l'on affiche sont effectivement conformes à la réalité. Une fois qu'on est rassuré sur ce point, et pour être rassuré sur ce point, ça suppose qu'on a une méthodologie qui est claire, qui est précise, qu'on maîtrise bien les différentes étapes de l'enquête, on va essayer de faire en sorte que les estimations que l'on sort sont aussi précises que possible. C'est-à-dire avec une marge d'erreur qui est aussi faible que possible. Donc, pour savoir si un sondage est plus ou moins réaliste, ce qu'il faut, c'est d'abord maîtriser les différentes étapes de l'enquête. Donc ça, c'est très large. Ça part du moment où on se pose une question. Par exemple, quel est le taux de chômage en France à un moment donné, jusqu'au moment où on sort le chiffre. Et entre ces deux étapes, il se passe pas mal de choses. Il faut d'abord formaliser la notion de chômage, donc savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle un chômeur ou pas. Il faut concevoir un questionnaire pour enquêter un certain nombre de personnes, sélectionner l'échantillon, enquêter les personnes, récupérer l'information et éventuellement traiter l'information et éventuellement traiter la non-réponse et ensuite au final sortir les chiffres. Donc c'est tout un tas d'étapes qu'il faut bien respecter, qu'il faut bien traiter si on veut être sûr de produire des chiffres aussi fiables que possible.
D'accord, et alors j'imagine que pour qu'un sondage soit représentatif par exemple de la population française, il y a des conditions. Enfin, j'imagine qu'il faut respecter peut-être certaines choses au niveau de la répartition homme-femme, tout ça.
Oui, tout à fait. La première chose que l'on va imposer dans les enquêtes telles qu'elles sont réalisées par l'INSEE, c'est que le sondage soit, on va dire, vraiment aléatoire. C'est-à-dire qu'on tire des individus au hasard qui vont être interrogés. Quand je dis individus, ça peut être des entreprises, ça peut être des ménages, ce sont des unités que l'on sélectionne. Et ce qui va nous garantir qu'on a des chiffres qui sont extrapolables à la population dans laquelle on les a sélectionnés, c'est justement le fait que ces individus ont été tirés au hasard. Donc là, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment important. On sait qu'on ne tire qu'une partie de l'information, donc on n'aura jamais une information qui sera 100% précise, mais on sait la façon dont ces éléments sont sélectionnés. Et là, on utilise les règles du calcul des probabilités, des lois de probabilité, qui nous dit qu'on peut extrapoler d'un échantillon à la population si on maîtrise la façon dont cet échantillon est sélectionné.
Donc finalement, le hasard va permettre d'être représentatif de la population ?
Tout à fait, c'est ça. Le hasard nous permet d'être représentatif de la population. Donc représentatif dans le sens où on tire un échantillon et on sait comment, sur la base de cet échantillon, extrapoler à la population en étant sûr qu'on est à peu près fidèle par rapport aux chiffres sur la population.
On s'accorde une petite pause musicale. On s'écoute Joe Stance avec le titre « Hey Girl ».
Still
De retour dans le Labomatique, je suis toujours en compagnie de Guillaume Chauvet, enseignant-chercheur à l'ENSAI. Alors on va maintenant s'intéresser aux enquêtes que vous menez, enfin aux recherches que vous menez, pardon. Donc vous vous êtes intéressé à plusieurs enquêtes sur différentes thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ?
Oui, alors j'ai eu l'occasion de collaborer sur différentes enquêtes. Je n'ai jamais travaillé en totalité sur des enquêtes, mais j'ai collaboré sur différentes étapes d'enquête. La première enquête sur laquelle j'ai travaillé, c'est le nouveau recensement, puisque vous savez peut-être que, enfin vous savez sans doute qu'on est passé à un nouveau système de recensement. Jusqu'en 1999, on avait un vrai recensement exhaustif qui était réalisé à peu près tous les 10 ans. Et puis depuis 2004, on est passé à ce qu'on appelle des enquêtes de recensement, c'est-à-dire une partie de la population qui est enquêtée chaque année. Donc ça a été mon premier poste sur lequel j'ai travaillé au sein de la maîtrise d'œuvre du nouveau recensement et j'ai collaboré à ce qui concernait la sélection des échantillons du nouveau recensement. Puis par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres enquêtes, notamment sur l'enquête sur l'emploi, où l'un des objectifs, c'est d'avoir une estimation fiable du taux de chômage en France et également sur les différentes régions. J'ai travaillé également sur l'enquête logement, où là, les objectifs, c'est de connaître les conditions de logement des ménages en France et également les conditions d'accession au logement. J'ai également travaillé sur l'enquête patrimoine en collaboration avec des personnes de l'enquête patrimoine. Là, davantage en aval, c'est-à-dire pas sur la question de la sélection des échantillons, mais sur la question du traitement des données et de la correction de la non-réponse, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas répondu à l'enquête.
D'accord. Alors, on va s'intéresser à votre étude sur le recensement. Quelles étaient vos missions dans cette enquête ?
Alors, ma mission, en collaboration, on était une équipe de 4 personnes. Donc, ma mission, ça a été d'aider à la sélection des échantillons. Donc, pour résumer le nouveau recensement distingue 2 catégories de communes. Donc, je pense que les auditeurs ont dû être concernés à un moment ou à un autre. Ce sont les grandes communes, celles de plus de 10 000 habitants, et ce qu'on appelle les petites communes, les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, le principe du recensement, c'est que pour ces petites communes, en 5 ans, toutes les petites communes et normalement tous les habitants de ces petites communes sont recensés. On répartit ces petites communes en 5 groupes de façon aléatoire et une année donnée, tous les ménages de toutes les petites communes d'un des groupes sont recensés. Ensuite, à l'intérieur des grandes communes, on a une sélection qui est individualisée commune par commune, mais le principe reste à peu près le même, c'est-à-dire que cette fois-ci, on dispose d'une base d'adresses sous la forme de ce qu'on appelle le RIL, le répertoire d'immeubles localisés. On répartit ces adresses, là encore, en 5 groupes, qu'on appelle des groupes de rotation. Et au sein d'un groupe de rotation, qui va être traité une année, on va sélectionner à peu près 40% des adresses. C'est-à-dire que, par exemple, sur la commune de Rennes, en 2004, on a pris 1/5 des adresses, et on en a enquêté à peu près 40%. En 2005, un autre 1/5 des adresses, on en a enquêté 40%, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'entre 2004 et 2008, on a à peu près 40% des adresses de la commune de Rennes qui ont été enquêtées au titre du recensement.
D'accord. Alors, il me semble que vous aviez plus ou moins une deuxième tâche qui consistait à calculer les marges d'erreur aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par erreur déjà ?
Alors, l'erreur, c'est un petit peu ce qu'on disait au départ, c'est une erreur qui est maîtrisée, c'est-à-dire maîtrisée dans la mesure où on connaît la façon dont on sélectionne nos échantillons. Donc, on peut avoir même a priori une idée de l'erreur que l'on fait quand on tire nos échantillons. L'erreur au sens large, c'est reprendre l'ensemble du processus de l'enquête à partir du moment où on sélectionne notre échantillon jusqu'au moment où on produit le chiffre. C'est prendre en compte l'ensemble des étapes de cette enquête et prendre en compte l'ensemble des erreurs associées aux étapes de cette enquête. Donc, les erreurs, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on tire un échantillon. Donc, on n'a qu'une partie de la population. Donc, déjà, on a une erreur à ce niveau-là qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage. Donc, ce n'est pas une mauvaise erreur dans la mesure où on est capable de la quantifier, on est capable d'estimer l'imprécision associée à cette erreur. Puis on a également d'autres sources d'erreurs que l'on essaye de quantifier, et là c'est un petit peu plus difficile. C'est en particulier l'erreur due à la non-réponse, due au fait que certaines personnes ne répondent pas forcément à l'enquête, et donc on essaye d'en tenir compte, même si c'est quelque chose d'un petit peu moins facile parce qu'on a moins de maîtrise dessus. Et il y a également d'autres sources d'erreurs où là encore on essaie d'en tenir compte, mais c'est pas forcément facile. C'est ce qu'on appelle les biais de réponse, le fait que quand on pose une question à un individu, il ne va pas forcément nous donner exactement la bonne réponse. Alors c'est pas forcément un problème de mauvaise volonté, c'est par exemple qu'un individu doit faire appel à sa mémoire sur certaines questions. Dans les enquêtes de victimation par exemple, on lui demande s'il a été victime d'une agression, on va dire, au cours des 5 dernières années. Et la personne en question, si elle a été victime, mettons, d'une agression, par exemple, 7 ans auparavant, mais si le souvenir est encore assez présent dans sa mémoire, va peut-être avoir tendance à dire « oui, j'ai été victime d'une agression », alors que ça ne correspond pas à la période couverte. Donc il y a ces problèmes-là, ces problèmes qui sont du domaine des erreurs de mesure, qu'on essaye de prendre en compte également.
D'accord, donc la non-réponse, c'est une source d'erreur.
La non-réponse, c'est une source d'erreur. C'est même une source d'erreur importante, parce que si je reprends cet exemple de l'archer qui vise le centre de la cible, la non-réponse peut faire qu'en fait, notre objectif est décentré, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas le centre de la cible. Concrètement, ça veut dire que la non-réponse peut orienter ce qu'on observe sur l'échantillon. On n'observera pas forcément la même chose sur l'échantillon et sur la population. En particulier, si les individus qui répondent ont un profil assez spécifique, si on fait une enquête sur le revenu des individus et si finalement les individus qui ont plutôt tendance à ne pas répondre ont des revenus plus importants que dans le reste de la population, alors clairement, on aura des estimations qui ne représenteront pas la situation sur l'ensemble de la population. Et ça, il faut essayer de le compenser.
D'accord. Donc, dans les enquêtes, les sondages, il y a systématiquement des erreurs ?
Oui.
Toujours.
Toujours des erreurs, mais des erreurs que l'on maîtrise.
D'accord. Alors, en pleine période présidentielle, justement, on entend parler de sondages partout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté ? Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Est-ce qu'on peut se fier à ces résultats qui ne sont pas toujours les mêmes selon les instituts de sondage ?
Alors, d'abord, je vais dire, c'est une opinion personnelle, mais pour moi, il y a vraiment deux métiers différents, c'est-à-dire les sondages tels qu'ils sont faits dans les instituts de statistiques publiques, tels que l'INSEE, et les sondages d'opinion, en particulier, ce ne sont pas les seuls, mais c'est une partie de l'activité des instituts de sondage privés. Est-ce que les chiffres qui sont publiés par les instituts de sondage privés sont fiables ? J'aurais tendance à dire que actuellement, je ne suis pas capable de répondre à cette question, dans la mesure où, et c'est ce que j'ai essayé de dire, pour savoir si un chiffre est fiable, il faut maîtriser le processus qui a conduit à la fabrication de ce chiffre, qui part du moment où on sélectionne l'échantillon, au moment où on enquête les individus et au moment où on produit le chiffre. Si on a des informations détaillées sur ce processus, si on sait exactement ce qui s'est passé, comment il a été produit, alors on peut dire soit oui, d'accord, vous avez produit votre chiffre de façon fiable. Et si on n'a pas cette information, il est impossible de dire si effectivement les étapes se sont faites dans les règles de l'art. Donc, je pense que les instituts de sondage privés sont des gens sérieux. Je n'ai pas de raison de douter qu'ils font leur travail de la meilleure façon possible. Je dis simplement qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas toute l'information qui serait nécessaire pour savoir précisément si ces chiffres sont exactement fiables. C'est un petit peu le sens d'un rapport qui a été produit par deux sénateurs assez récemment, le rapport des sénateurs Sueur et Portelli, qui justement demandait à ce qu'on puisse avoir une connaissance précise du processus de production des chiffres par les instituts de sondage privés. Malheureusement, pour l'instant, ce rapport n'a pas encore été suivi.
Et vous pensez que c'est nécessaire, tous ces sondages, en fait ? Enfin, pourquoi il y en a autant ? Pourquoi on ne fait que de nous parler de ça à la télé ? Est-ce que vraiment, on a besoin de savoir systématiquement les scores ou,
Alors, besoin de savoir, je ne sais pas, mais envie de savoir, très certainement. Je sais que moi-même, qui suis, je vous l'ai dit, qui peut émettre quelques doutes sur la façon dont ces chiffres sont produits, assez naturellement, si je vais sur un site d'un journal d'information le matin, je vais de temps en temps aller regarder les courbes des sondages concernant la présidentielle pour savoir un petit peu quel est l'état. Donc, on ne peut pas dire qu'on a absolument besoin à 100% de ces sondages, mais je pense que le fond du problème, c'est que les gens sont demandeurs de ce type de sondage et sont intéressés pour avoir un état à un moment donné de l'état de force sur la présidentielle.
Vous avez des projets de futures enquêtes là, sur lesquelles vous allez travailler prochainement ?
De futures enquêtes, pas particulièrement, mais on va avoir le plaisir d'accueillir à l'ENSAI un professeur invité à partir de l'année prochaine, David Aziza de l'Université de Montréal. Donc ça va être l'occasion de nouer de nouveaux partenariats et peut-être de nouvelles collaborations avec l'INSEE, de travailler sur de nouveaux sujets de recherche.
En lien avec le Canada ou pas du tout ?
En lien avec le Canada, puisque au Canada, il y a ce qui s'appelle StatCan, Statistique Canada, sur lequel l'aspect enquête est très développé. Donc peut-être que ça va être l'occasion de développer des partenariats avec eux.
D'accord, et ben on vous souhaite bon courage pour tout.
Merci beaucoup.
Guillaume Chauvet, merci. Avant de nous quitter, je voulais juste vous signaler que les grandes gagnantes du Festival Science en Cours sont l'équipe de Marie et Cécile qui présentaient leur film Statistique, c'est le problème de la potion magique. Alors justement, on est en plein dedans, on parlait de statistiques dans cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du Labomatique. Bonne semaine à tous. Thank you.